France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
En France, les régimes passent et la cuisine demeure.
The menu, please.
En entrée, salade d'hiver, pickles de kumquat, œufs mollets et condiments mystères.
Oui, aïe, aïe.
En plat, je vous propose une escale italienne avec preti ripieni in brodo, des prêtres farcis au bouillon.
Ah, oh, ça c'est étonnant.
En dessert, un trompe-l'œil comme un hommage à la poire Belle-Hélène.
Qu'est-ce que vous voulez boire?
Un petit peu de vin blanc.
Le sommelier vous propose un tour de France des vignobles pour accompagner ces merveilleux mets.
Parfait. Alors à table.
Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus à la table dont va déguster pour un réveillon légèrement en avance. Pas de chef au fourneau, ce sont les chroniqueurs et les chroniqueuses dont va déguster qui ont enfilé leur tablier pour composer de l'entrée au dessert un repas de fête dont on vient d'entendre les beaux intitulés de plats. Une entrée signée Elvira Masson, un plat à l'accent italien préparé par Alessandra Pierini, un dessert fruité concocté par Céline Maguet et les accords mets et vins préparés par celui qui a accepté de jouer les sommeliers, sommeliers à l'ancienne, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, Jérôme Gagnez évidemment. Bonjour les copains et les copines.
Bonjour à tous.
On va se régaler, vous n'avez pas trop la pression, ça va?
Non mais on a faim.
Tout va bien.
Ah vous avez faim?
Ah oui.
Et soif.
Soif, oui, soif évidemment, et puis j'espère surtout que vos plats vont être réussis.
Pression.
J'espère aussi.
Et puis au moment du dessert, on conclura cette émission en beauté parce que les anglo-saxons appellent un Secret Santa, autrement dit des échanges de cadeaux surprises, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez chacun apporté un cadeau gourmand que vous avez méticuleusement emballé dans du papier cadeau. On va les déballer tous ensemble. Retrouvez d'ores et déjà toutes les recettes de notre réveillon ainsi que nos bons plans, le podcast de nos émissions, le podcast de toutes nos chroniques sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
J'ouvre les festivités avec l'une de mes recettes préférées que j'ai l'habitude de servir depuis des années à ma famille au moment des fêtes si vous voulez tout savoir. Et je vous la sers en guise, de mise en bouche.
D'abord, c'est beau.
Merci.
Très joli. On dirait une fleur avec des noix dessus.
Noix sur noix. Hein. Mm. Là, je vous donne un petit indice.
Saint-Jacques cru.
Saint-Jacques.
Oui.
Des petites noix de Grenoble pour le croquant.
Orange dans l'assaisonnement.
Orange.
C'est très réussi.
D'habitude, vous n'aimez pas trop l'aigre doux, Jérôme Gagnez.
En l'occurrence, il est admirablement dosé, d'une part, et d'autre part, le fruit, en l'espèce l'orange, est très discrète dans sa dimension aromatique. Le sucre aussi, c'est l'acidité qu'on perçoit.
Mais il y a un peu de miel dans la vinaigrette ?
Non.
Alors qu'est-ce qui apporte le sucre comme ça ?
Ah, vous allez le savoir.
C'est vraiment délicieux, mais surtout le combo torréfaction de la noix, enfin côté un peu comme ça, grillé et orange, n'éteint pas du tout la douceur et la subtilité de la Saint-Jacques.
Oui,
ça doit être un peu risqué quand même.
Qui a cette suavité un peu lactée.
Oui, et puis c'est cette amertume italienne.
Oui, et ben voilà.
Caractéristique des plats.
En effet.
C'est bon.
Nous accueillons pour déguster ce plat avec nous. Esther, stage à France Inter.
Oui.
Quel collège?
Françoise Zolto, dans le 20e arrondissement de Paris.
Et je crois savoir que tu es très gourmande.
Ah oui.
Est-ce que tu apprécies ce que tu viens de manger?
Alors oui, j'aime beaucoup le goût de l'orange mélangé avec la Saint-Jacques. Je trouve que c'est un très bon mélange.
Et tu avais déjà goûté la Saint-Jacques crue?
Si, je crois que j'avais déjà goûté une fois, ouais.
Et cette texture très très fondante, ça te dérange pas? Ça te plaît?
Non, moi j'aime bien, c'est un peu comme les huîtres et tout ça, j'aime beaucoup, ouais.
Waouh, ça fait plaisir de voir Esther, quel âge tu as?
14 ans.
À 14 ans, apprécier les produits de la mer crue. Alors évidemment, il y a un petit rapport avec l'Italie, puisque cette Saint-Jacques de Normandie, je la fais voyager jusqu'à la Sicile, Sicilia, Carpaccio de Saint-Jacques, salsa all'arancia. En effet, c'est une petite sauce d'inspiration sicilienne que m'a dévoilé un jour un chef italien que vous connaissez bien, Alessandra Pierini, Fulvio Pierangelini. Fulvio se servait de cette sauce pour assaisonner en fait des gamberi rossi, les fameuses crevettes rouges qu'on trouve soit dans le golfe de Gênes, dans votre Ligurie natale, mais également en Sicile. Et comme les crevettes en France viennent souvent des fermes intensives de Thaïlande ou d'Équateur, je les ai remplacées par des Saint-Jacques. Alors il faut
3 à 4 noix de Saint-Jacques bien fraîches par personne, bien fraîches évidemment, parce qu'on va les travailler crues. Vous les tranchez en fait en lamelles plutôt épaisses, il faut qu'il y ait un peu de matière. Il y a 3-4 mm d'épaisseur. Vous les disposez en rosaces, comme vous l'avez bien dit, Alessandra, dans chaque assiette. Et toute la magie de ce plat, c'est effectivement cette sauce à l'orange. Alors là, c'est très simple. Vous prenez 2 oranges à jus, ça tombe bien, c'est la saison. Moi, j'ai un faible pour une variété d'oranges siciliennes.
C'est peut-être la tarocco.
Bravo, la tarocco, une variété semi-sanguine de Sicile. Vous pressez ces tarocco, mais ça peut être d'autres oranges à jus, dans une petite casserole, et là, vous allez faire réduire le jus de ces 2 oranges à feu doux, jusqu'à obtenir une texture sirupeuse. On ne veut pas du tout un caramel, hein, qui va développer des goûts amers, mais on veut un sirop. Vous laissez refroidir.
Vous comptez combien de temps ?
On compte, bonne question, entre 5 et 10 minutes. Ce jus réduit, donc, vous le laissez refroidir et ensuite, à l'aide d'un petit fouet, vous allez l'émulsionner un peu à la manière d'une mayonnaise. Donc, il n'y a pas de miel, mais c'est en fait le sucre contenu dans le jus d'orange réduit qui va donner cette impression suave. Et en même temps, il y a l'acidité aussi de l'orange. Et vous l'émulsionnez, ce jus d'orange réduit, avec l'équivalent de 6 centilitres d'une bonne huile d'olive, de préférence un peu ardente, sur la vivacité.
Vert, oui.
Voilà, exactement. Plutôt un fruité vert. Et ensuite, vous perlez, tout simplement, votre carpaccio de Saint-Jacques avec cette vinaigrette. Mais il n'y a pas de vinaigre, cette orangette, je ne sais pas comment on pourrait dire. En n'oubliant pas, évidemment, de mettre dans cette petite sauce à l'orange une petite pincée de fleur de sel. Voilà. Pour accentuer la touche sicilienne, d'habitude, je mets il pistacchio di Bronte, que je concasse un peu. Et là, en l'occurrence, j'ai plutôt pris, pour être plus français, des noix de Grenoble pour faire noix sur noix. Et ça fait une entrée qui n'est pas vraiment une entrée à la noix. Hein.
C'est magnifique. Hein.
Magnifique.
Merci.
Je vais la refaire le 24.
Merci beaucoup. Alors, il y a un accord ou pas, Jérôme Gagnès, avec ce carpaccio de Saint-Jacques ?
Bah, évidemment. Alors, il y a un vin que j'aime beaucoup depuis très longtemps, tout le monde le sait, vous savez que j'aime beaucoup, beaucoup les vins de Loire. Et il y a une appellation qui ne produit que des vins blancs, qui est à l'extrême ouest de la région, qui s'appelle le Muscadet.
Eh oui !
C'est une région tout à fait extraordinaire, qui a longtemps été oubliée, qui aujourd'hui revient sur le devant de la scène depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, et c'est une excellente nouvelle. Et dans cette appellation, il y a une initiative remarquable qui a été prise, qui consiste à avoir sélectionné 10 crus, 10 terroirs particulièrement importants et de qualité. Et nous avons ici le cru Château Thébault du domaine Haute-Février. C'est Sébastien Branger qui nous propose ce vin. C'est un 2020, une remarquable bouteille. C'est un vin qui a été conservé pendant 43 mois en cuve. Ce sont ces longs élevages sur lit qui expliquent le caractère un peu salin de la finale. 2020, c'est un millésime qui était assez riche, un millésime solaire. On a ici un vin qui apporte une rondeur, une forme de suavité et en même temps de très fins amers. Et c'est cette très fine amertume qui vient coller au plat, qui vient répondre à l'orange. Et puis la texture très soyeuse, très veloutée de ce vin.
Répond aussi à la texture soyeuse de la Saint-Jacques.
Exactement. Donc pour moi, c'est un accord de cœur, c'est un accord que j'espère parfait.
Bon, on peut dire qu'avec notre sommelier, ça commence pas trop mal.
Ah, c'est parfait même.
On ne le vire pas tout de suite.
Ah, pas du tout.
Non, ça on le garde, celui-là.
Pour quel budget peut-on espérer obtenir cette cuvée du Muscadet dont vous nous rappelez les références, Jérôme ?
Eh bien, c'est donc le Muscadet cru Château Thébault du domaine Haute-Février de Sébastien Branger, moins de 20 euros au domaine.
Formidable.
Pour moi, c'est vraiment une merveille. Ça, c'est un vin qui a au moins 10 ans de garde devant lui.
Oh, et ben, ça commence très très fort.
Ouais. Bravo, vraiment, bravo, bravo à Sébastien Branger.
Un premier verre tout en vivacité et en élégance. Et cette entrée dont je vous parlais, la Saint-Jacques sauce à l'orange, est une des 155 recettes que je raconte et que je cuisine dans Recettes et Récits, mon premier livre de recettes paru en novembre aux éditions Marabout et Radio France. Et comme c'est Noël, France Inter offre 3 exemplaires de ce recueil, tamponnés et dédicacés par mes soins, aux 3 auditeurs ou auditrices qui vont être les premiers ou les premières à envoyer, attention, la bonne réponse à la question qu'Elvira vous pose dans un instant. Alors, faut envoyer cette réponse, accompagner cet impératif du prénom, du nom, de l'adresse postale, sinon on ne peut pas vous adresser ce livre, sur notre mail onvadéguster@radiofrance.com. Elvira, question.
À quoi servait, dans l'Égypte antique, la coquille striée de la Saint-Jacques ? Indice, c'est de cet usage que la Saint-Jacques tire son nom latin, Pecten Maximus.
Allez-vous nous la répéter ?
À quoi servait, dans l'Égypte antique, la coquille striée de la Saint-Jacques ? C'est de cet usage que la Saint-Jacques tire son nom latin, Pecten Maximus.
Pas simple, hein ? Il me regarde avec des gros yeux, Jérôme Gagnès, il n'a pas la réponse.
J'en ai pas la moindre idée.
Ding ! Il faut corser un peu les questions, quand même.
Hein. Ah oui, là, c'est...
Eh bien, écoutez, on va voir...
Bravo, bravo,
si on a rapidement des réponses. Ils sont de la partie derrière la vitre de la régie. Laurent Thomas, Fabrice Rivaud, Raphaël Rousseau. Le réveillon se poursuit juste après. Bah tiens, un petit cadeau musical de notre ami Djoubaka, Lèche Frite. de The Cracked Cookies.
Je pense Qu'est-ce que c'est que ça ?
Je pense que vous allez beaucoup aimer. Tendez l'oreille, éventuellement la langue. Bonne dégustation, joyeuse fête sur France Inter.
Certains soirs, je me sens blasée et chaque petit rien m'exaspère. Ces soirs-là, pour me remonter, je m'offre un plaisir solitaire.
Camembert.
J'enfile d'abord mon tablier, puis j'aligne sur la patère par gourmandise anticipée tous mes jouets de cuisinière.
Poche à douille, patère et lèche-frites, rien que les noms déjà m'excite.
Je vais, je viens.
Il n'y a rien de plus grisant, juste à la force du poignet, d'énergiquement monter les plans, de patiemment les faire mousser. Je choisis ma plus belle spatule afin de les incorporer très lentement et sans fécule, avec douceur et fermeté.
Du geste dépend la réussite, lentement c'est déjà trop vite.
Je vais, je viens, mon fouet à la main, tablier sur mes reins, ouh, c'est si bien.
Les chroniqueurs et les chroniqueuses dont on va déguster mettent les petits plats dans les grands et réveillent notre réveillon avec des recettes simples, sobres et plutôt bon marché. Alors on a commencé très fort avec en attaque mes Saint-Jacques. Non, je rigole. Le mec qui s'envoie des fleurs tout seul. Et pour gagner recettes et récits, mon livre qu'on vous offre aujourd'hui, il fallait répondre à une question que vous nous rappelez, Elvira.
À quoi servait dans l'Égypte antique la coquille striée de la Saint-Jacques ? Indice, c'est de cet usage que la Saint-Jacques tire son nom latin, Pecten Maximus.
Alors on a manifestement déjà les gagnants, faut arrêter d'envoyer des mails.
Faut arrêter d'en envoyer, c'est bon, on est au point.
On est au point.
Et je sais pourquoi, Jérôme, vous n'aviez pas la moindre idée de la réponse, car la réponse est un objet que vous ne fréquentez pas beaucoup.
Ah, c'est quoi, racontez-moi.
Le peigne.
Pecten.
Pecten, c'est le peigne. Ça veut dire peigne en latin. À l'époque de l'Égypte antique, la coquille servait de peigne.
Ah. Avec son effet strié, j'imagine qu'elle a été un peu creusée, c'était un peigne naturel. On va vous offrir une
coquille Saint-Jacques. Je suis toujours très bien coiffé, je fais très attention.
France Inter. On va déguster.
L'entrée d'Elvira va bientôt faire son entrée. Vous êtes au plan de travail pour nous dévoiler votre recette festive.
C'est une salade d'hiver, un ensemble de salades amères. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai besoin... Avant l'arrivée de la décharge de sucre, j'ai besoin d'un peu d'amertume. À la fois, j'ai l'impression que ça me nettoie un petit peu les papilles. Et en plus, on sait que les salades amères et les amères, de manière générale, ont une fonction digestive qui, franchement, arrive à point nommé.
Plus, c'est les salades vraiment qui sont disponibles en ce moment. Et les couleurs aussi des salades, elles sont quand même extraordinaires.
C'est magnifique. Il y a un dégradé, là, qui est super.
Un dégradé de rose poudré, de violet...
Donc on a, sur le pourtour de mon plat de service, qui est un plat ovale, une salade italienne qui s'appelle la Castelfranco, qui est effectivement à ce côté un petit peu vieux rose, rose poudré. Et au centre du plat, de la trévise, une corolle quand même un peu jolie,
c'est soigné.
De Castelfranco. Et j'ai prévu un assaisonnement, je pense qu'avec les salades amères, il faut à la fois un peu de sucre, pas trop, il faut de la fraîcheur, il faut de l'acidité, un petit peu d'huile de sésame, pas trop, hein, parce que ça prend le pas surtout, un petit peu d'huile d'olive, j'ai mis également du citron vert,
ouais.
Un tout petit peu de mélasse de grenade, alors ça vous me connaissez par cœur, François-Régis, c'est un léger tropisme un petit peu levantin.
Alors là, on parle vraiment d'un jus de grenade qui est réduit, un peu comme mon jus d'orange tout à l'heure.
Oui, c'est le même principe.
Et on obtient une espèce de sirop fruité,
c'est ça.
Qui est un peu le vinaigre balsamique des levantins.
On pourrait dire ça. D'ailleurs, si on n'a pas de mélasse de grenade sous la main, parce que ce n'est pas un produit non plus qu'on trouve si facilement que ça, il faut potentiellement l'acheter en ligne, etc. On peut très bien remplacer par un petit peu de balsamique de bonne qualité. Et j'ai mis également un petit peu de miso, parce que je voulais apporter comme ça un peu de profondeur, une légère sucrosité. J'ai un peu d'aneth.
N'oublions pas que vous avez par votre maman des origine suédoise quand même, l'aneth, pas de Noël sans aneth.
C'est ça, et en plus j'aime bien aneth, amer, je trouve que ça fonctionne très bien. Et j'ai des œufs qui sont ici, que j'ai déjà écalés mais que j'ai pas découpés. Ce sont des œufs mollets, donc j'ai cuit 6 minutes et quelques.
Mm-hmm.
Et ces œufs, je vais les disposer sur ma salade.
Génial.
Enfin, je dis je vais, j'ai qu'à le faire, non?
Bah oui.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, c'est ce qu'on était en train de se dire.
On a relativement faim
et que voilà.
Bon, ils sont peut-être entre mollets et durs d'ailleurs.
Ah, moi j'aime beaucoup cette texture.
Enfin, ils sont pas complètement durs, mais... faudrait inventer un mot entre mollet et dur.
On va dire que c'est le
jaune.
Ils sont mollures, voilà.
Ils sont mollures, c'est le jaune.
Oui, ils sont dolets.
C'est le jaune couché de soleil.
Donc je les découpe en deux, dans le sens de la longueur, enfin logique, quoi.
Mais là, vous ne nous dressez pas les assiettes, Elvira. Là.
Il va falloir se servir.
Ah, on va se servir.
Jérôme, il ne veut rien faire, hein, à part servir des verres. Non, il faut bosser un peu.
Ah, c'est sympa, c'est le buffet de la gare, ok, non, très bien.
Il a pris le rôle de l'oncle relou à Noël.
Oui, c'est ça, oui.
Mais pour l'instant, il ne dit pas trop d'horreur, je trouve. Non ?
Attendez, il n'a pas encore goûté. Hein.
J'ai fait aussi, pour ajouter un petit peu de nouveau de la fraîcheur, en fait, je vous copie un peu, un petit peu d'agrumes. J'avais quelques kumquats à la maison et j'ai fait un pickles minute.
Génial.
Voilà, un temps pour temps de vinaigre et de sucre. Et j'ai trempé ça là-dedans à ébullition. Et après, j'ai rempli ce petit pot en verre.
Et là, on parle de kumquats que vous avez donc émincés en lamelles.
Kumquats corse. Hein.
Kumquats
corse. De plus en plus de kumquats de provenance raisonnable. À l'aide d'une pince à épiler, je dispose...
Elle y va avec les doigts. Hein.
Les petites lamelles de kumquats un peu partout.
En plus, avec les kumquats, il y a les touches orangées, roses.
C'est très beau.
C'est très, très beau.
J'ai ouvert des petits pots en verre et je prélève à l'aide d'une cuillère un condiment foncé.
De loin, ça ressemble à la tapenade.
Entre tapenade, graines de moutarde et caviar.
Oh, elle nous a sorti du caviar.
Non, je ne suis pas généreuse à ce point. Là, j'ai déjà dressé 4 demi-œufs et je dresse les deux derniers.
Donc tous les demi-œufs ne reçoivent pas le même condiment.
Non.
Et on fait passer le plat d'Elvira, on se sert. Vous n'en prenez pas plus que les autres, s'il vous plaît, Jérôme.
Et moi, je suis plus gros que tout le monde, je peux en prendre plus.
C'est Daphné qui nous a rejoint au micro. Comment ça va, Daphné?
Ça va bien, merci.
Stagiaire de 3e?
Oui, exactement. Collège Alphonse Daudet dans le 14e arrondissement de Paris.
Est-ce que tu es une gastronome?
Pas trop, mais j'aime bien manger.
T'aimes bien manger quand même?
Oui.
Alors, on te propose une chose, tu te saisis de ta fourchette et de ton couteau et tu essayes cette entrée assez particulière. Tu nous dis ce que tu en penses.
C'est vraiment excellent. D'habitude, j'aime pas trop tout ce qui est amer, mais là, c'est vraiment bon.
Est-ce que tu arrives à identifier le condiment mystère qu'il y a sur l'œuf mollet?
Non.
Non?
C'est pas facile.
Il y a des algues.
Déjà, c'est magnifique.
Ah, il y a un mot intéressant d'algues. Qui a été lâché quand même.
Oui.
Et pour le croquant, graines de chia.
Bien vu.
Oh là là, là, elle plie le game.
Et là, c'est le moment où Jérôme se met à bouder quand on dit graines de chia.
Quand on me donne des graines, moi j'ai l'impression que je vais devenir une poule.
Oh là là.
C'est mal,
non? Non, c'est très très bon. Et il y a un côté.
C'est bon.
Patron, je vais vous faire plaisir. Il y a un côté umami, là.
Il y a
beaucoup de profondeur.
Il y a un côté très umami.
C'est très réussi, je trouve. Non? Ce condiment. Salade, hein, le condiment.
Non, parce que je pensais que vous parliez de votre salade et je me disais finalement on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vous avez raison, c'est qu'il faut commencer comme ça.
Non, ce condiment est vraiment délicieux.
Le condiment est très réussi. Et en fait, il est très puissant. Hein.
Très marin, très profond en effet, avec une texture légèrement visqueuse mais très agréable. Vous en pensez quoi, Alessandra?
Mais il faut manger avec le kumquat en fait, qui donne cette impression un peu de douceur. Fruité, qui va très bien avec le marin salin de ce condiment.
Et votre vinaigrette est top, parce qu'il y a des acidulés qui fonctionnent bien et qui complètent parfaitement l'amertume des feuilles.
Je suis ravie. Alors ce produit mystérieux, c'est en effet un caviar végétal.
Un caviar végétal.
Dont les deux principaux ingrédients sont, comme l'a dit Céline, les algues qui viennent de Bretagne et les graines de chia qui sont cultivées dans l'Oise. Donc c'est un produit tout à fait local. À ceci, on ajoute un petit peu de sauce soja, de l'huile,
jus de citron et du sel, un peu de vinaigre. Et ça a été travaillé par les créatrices de la marque Ancré, Ancré comme une encre de bateau, et eux à la fin, qui a lancé 3 versions et désormais une 4e de ce caviar végétal. Vous avez les uns et les autres une version acidulée avec une pointe de yuzu. Vous avez une version truffée avec un petit peu de tuber melanosporum, de vraie truffe, et ça c'est Jérôme. Mmh. Vous avez une version nature, c'est peut-être vous,
moi,
Alessandra.
Moi je pense, oui. Je préfère nature, donc voilà, ça
tombe bien, le hasard a bien fait très les choses. Et il y a une 4e version qui existe au chanvre et que je n'ai pas goûtée. Et je trouve que c'est un produit à la fois festif, dense, intrigant.
Très
belle, qui donne vraiment du relief,
alternative au caviar.
Voilà, aussi, un prix accessible, vraiment, oui. C'est entre 13, 14 et 20 euros pour la version truffée. Mm-hmm. On peut quand même garnir pas mal de petites tartines, blinis, œufs, et ça marche très bien avec le jaune d'œuf.
Et cette texture qui ressemble au caviar, c'est effectivement la propriété mucilagineuse de la graine de chia qui lâche en fait ce mucilage un peu gluant. Alors ça ne fait pas rêver comme ça, mais en bouche, on a vraiment la sensation d'un caviar qui s'évanouit sous le palais.
Très
ravi.
La recette d'Elvira Masson, une entrée festive à moindre coût, est à retrouver évidemment sur franceinter.fr à la page On va déguster. Merci beaucoup Daphné.
Merci à vous.
Bonne fête. Jérôme, qu'est-ce que vous avez prévu dans le verre pour accompagner l'entrée d'Elvira?
Alors là, je dégaine quelque chose d'absolument imparable, qui fait double emploi, parce que non seulement ça ira très bien sur cette entrée, mais surtout c'est un merveilleux vin d'apéritif. Et attention, un crémant de Limoux.
Oui.
Cuvée prestige du domaine B&B Boucher. Alors B&B pour Bernadette et Bruno Boucher, d'origine champenoise. Mm-hmm. Leurs parents faisaient du champagne.
Ouais.
Ils se sont installés à Limoux, qui, rappelons-le, est le berceau du vin à bulles. La blanquette de Limoux, bien sûr, très connue. Et puis, il y a aussi le crémant de Limoux. Donc, Limoux, c'est situé à 30 km au sud de Carcassonne, en gros, dans l'Aude. Le crémant de Limoux, c'est une méthode traditionnelle. Donc, c'est produit comme un champagne. Mm-hmm. Avec des cépages qui sont similaires. En l'espèce, ici, 20% de Pinot Noir, 50% de Chardonnay. Et complété par 30% de Chenin. Un assemblage très typique de Limoux. On fait du vin, on le met dans la bouteille, on met un petit peu de sucre et de levure. Il va y avoir une deuxième fermentation qui crée l'effervescence. Et ensuite, ce vin va vieillir comme ça. Les levures vont mourir, vont former la lie. Et le vin va être élevé sur lie pendant 60 mois, 5 ans. C'est considérable. Et ça explique ce côté très finement grillé, un peu brioché de ce vin au nez. Et c'est ce qui est très intéressant. C'est à la fois la dimension assez vineuse de ce crémant qui fait qu'il s'adapte bien à l'entrée d'Elvira. Et en même temps, il y a beaucoup de fraîcheur, une belle acidité naturelle, parce que c'est un vignoble d'altitude qui rend ce vin absolument délicieux à l'apéritif. Ça vaut 13 euros. 13 euros. Et si on veut boire des bonnes bulles, et ben, qu'on n'a pas forcément les moyens de payer ce pays du champagne, une alternative formidable, parce que c'est quand même un vin que je trouve de classe, c'est un vin qui a de la finesse, de l'élégance.
Incroyable, avec une bulle très fine, crémeuse.
La bulle est très fine, c'est crémeux, enfin, franchement, c'est un superbe vin.
Il peut revenir au troisième tour.
Merci beaucoup, Elvira.
Franchement.
En tout cas, j'ai goûté 50 créments de Limoux. Je peux vous dire que celui-là, c'était le premier, le meilleur. C'est la cuvée Prestige, le crément Prestige du domaine B&B Boucher en crément de Limoux. Bravo.
La crème de la crème du crément.
Tout à fait, monsieur.
Laurent Thomas, notre réalisatrice, nous propose aussi un petit cadeau en forme d'énigme musicale. Attention, quelques notes de piano et vous essayez de trouver l'air qui se cache derrière.
Je l'ai presque.
Alors, Vive le vent, c'est la version française en
Jingle
effet.
Jingle Bells.
Oui, Jingle Bells. Par par qui?
Lang Lang.
Réinterprétation par qui?
Chili Gonzalez.
Bravo, Céline.
Oh, génial.
L'artiste canadien Chili Gonzalez qui avait sorti en 2020 A Very Chili Christmas.
Bien sûr.
Un album formidable.
Ouais.
Si vous voulez passer de belles fêtes avec Piano playlist Chili Gonzalez, franchement, playlist parfaite, absolument, bravo, un point pour Céline Maguet qui en marque pas mal des
Jingle Bells quand même, Elvira.
Avec Les Algues, Jingle Bells et Vive le Vent, c'est effectivement la version par chez nous. On passe au plat et vous allez voir que ce plat n'a rien de plat, il a même du relief, un relief tout transalpin. C'est notre spécialiste génoise de la cucina italiana, Alessandra Pierini, qui s'en occupe. Et j'ai l'impression, Alessandra, qu'on va bouffer du curé.
Oui, en fait, vraiment du prêtre. Oui, oui, ça s'appelle prêtre. C'est un plat qu'on mange vraiment pour Noël à Genève, hein, vraiment le jour du 25 décembre. Des feuilles de choux qui sont farcies. C'est la viande de veau, c'est un morceau de filet de veau qui est mélangé avec du parmesan, de la mie de pain, de la noix de muscade, des pignons, de la marjolaine pour faire vraiment bien la ligurie.
La belle recette de ces prêtres farcis est sous nos micros. Et c'est Zeno qui nous a rejoint.
Bonjour.
Comment ça va ?
Bien, bien.
Troisième ?
Ouais, troisième. Collège international Honoré de Balzac dans le 17e arrondissement.
Et il paraît que t'as des origines italiennes ?
Oui, je suis italien, mon père est italien, il vit à Florence.
D'où Zeno qui est un prénom italien ?
Oui, ça vient de La coscienza di Zeno, le livre d'Italo Svevo.
Ah oui, c'est ça.
La classe.
Oui.
Tu aimes la cuisine italienne ou pas ?
Oui, je raffole.
La pasta.
Ouais.
Alors, on goûte tous. On peut dire qu'on a affaire comme ça à des petits coussins, des petites enveloppes.
Ouais, ça fait un petit oreiller.
De choux, ça fait un petit oreiller.
Un peu dodu, c'est ça.
De choux. Ouais.
C'est pour ça qu'on les appelle les prêtres, pour ce côté un peu douillet,
dodu. Le côté dodu du prêtre. Oui, je vois très bien ça.
Si je vous avais préparé à la place de la viande, la version végétarienne, on les aurait appelés les frati in brodo, c'est-à-dire les moines.
Les moines.
Les moines au bouillon.
Ils sont moins dodus.
C'est plus, oui, plus de végétal, moins riche. Mais là, c'est vraiment la version riche, celle des fêtes de Noël.
Très gourmand.
Ah, Jérôme Gagnès, il boit carrément le bouillon au bol.
Bah oui, il a raison.
Non, mais faites comme chez vous, Jérôme. Non, non, je vous en prie.
Et le bouillon que j'ai préparé.
Ouais, je fais comme chez moi, c'est pour ça que je me sens très à l'aise.
Zeno a l'air d'apprécier ce plat.
Oui, Zeno, il se moque de moi, il arrête pas de rigoler parce qu'il me voit boire mon bol.
Il est mort de rire,
Zeno. Il dit, qu'est-ce que c'est que cette espèce de gros cochon à côté? Je suis à côté de grosse bouffe, tu sais, dans les schtroumpfs, il y a grosse bouffe. Il aura des trucs à raconter pour Noël.
Tu aimes bien ou pas?
Oui, j'aime beaucoup. Effectivement, moi j'avais déjà goûté ça et mangé ça au réveillon en Italie.
Oui.
Et c'est oui, génial, donc ça me rappelle, ça me fait des souvenirs, on va dire.
Vous aimez
c'est
ou pas ?
C'est délicieux, c'est d'une gourmandise à la fois d'une délicatesse.
C'est vraiment notre recette de famille, ma maman le fait chaque année pour Noël. Et là, j'ai préparé un bouillon avec des légumes, de la poule. Il faut que le bouillon soit un peu délicat, savoureux, mais assez léger.
Un peu sapide aussi quand même.
Il est merveilleux le bouillon.
Ah, il est merveilleux.
Il est d'une délicatesse, il est absolument délicieux.
Ah oui, comme quoi les bouillons cuits, hein, ça fait son effet.
Non. J'ai fait cuire ma poule et en plus après je l'ai mangée comme avec de la moustarde.
Donc on prend quel chou ? On prend un chou
Un chou frisé.
C'est ça.
Un chou frisé. Ça peut être un chou de Pontoise. Ils sont sur les étals en ce moment. Et on le sert avec, on en met normalement 2-3 petits paquets par personne, c'est avec ça, une bonne louche de bouillon. Et si on est vraiment très gourmand, encore un petit peu de parmesan râpé.
Ce qui est génial aussi, c'est qu'on peut les préparer un petit peu à l'avance.
On peut
juste les réchauffer dans le bouillon. Donc c'est, en termes d'organisation, c'est génial.
Bien sûr.
Rappelez-nous, comment s'intitule cette recette en Ligurie ?
Allora, preti farciti in brodo.
Qui veut dire très exactement...
Des prêtres farcis au bouillon.
Et la recette d'Alessandra Pierini, évidemment, comme toutes les autres, est à retrouver sur franceinter.fr, sur la page de notre émission. Alors, petite énigme bachique, puisque notre ami Jérôme Gagnès a profité de la dégustation pour verser dans nos verres un vin rouge.
Alors là, c'est un vin rouge, oui, et c'est à l'aveugle. Donc là, il s'agit d'essayer de découvrir. D'abord, j'espère évidemment que le vin vous plaît. Ce vin m'a beaucoup plu. J'ai goûté à peu près 150 vins de cette appellation il y a une quinzaine de jours.
Il y a de la matière.
Plutôt un vin sudiste ?
Tout à fait, madame.
Oui.
Alors, on va un peu plus loin, sucré, Alessandra.
De la mâche fruitée.
Sont des notes, il y a des notes poivrées, un peu Mourvèdre ou Carignan.
Des tanins
soyeux,
assez souples.
Alors, il y a un des deux cépages où t'as bon, Céline. C'est à la fois, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce vin, c'est une aromatique avec un fruit qui est très en avant, à côté fraise écrasée, très joli, qui est un peu l'arôme du cépage principal. T'as un des deux cépages, c'est cette dimension un peu épicée, un peu plus fraîche.
Alors, est-ce
donc
qu'on
c'est méridional, Céline
c'est
a tout à fait
c'est lequel des
trouvé.
Deux, c'est Mourvèdre ou Carignan, alors
c'est le Carignan.
Alors, on va pas plus loin, est-ce qu'on s'aventurerait juste sur une région, une appellation ?
Vas-y Céline, t'es trop forte à ce jeu.
C'est très difficile.
Mais tu gagnes toujours à ce jeu, Céline.
Oui, c'est éminemment méridional.
Parce que justement, on parlait de ce côté sudiste, mais Côte-du-Rhône, tu dirais ?
C'est pas assez dense pour un Côte-du-Rhône.
L'alcool disparaît très vite, en fait.
Ouais.
Il y a ce fruit qui domine, c'est très équilibré. Moi, j'irais plutôt vers le Languedoc.
Bravo, c'est ça.
Alors, on va plus loin. Céline, c'est à vous.
Ah, le Minervois.
Ah, juste à côté.
Ah,
Corbière.
Ouais, les Corbières.
Ah,
c'est très beau,
c'est
point.
Loin,
ouais. C'est très beau.
Céline marque des points, quand même.
Bravo, non, mais c'est très bien dégusté, bravo. Corbières, terroir de Boutenac, donc une enclave dans les Corbières. C'est le château de Caraguille. C'est Étienne Besancenot qui dirige cette propriété. Elle appartient à un monsieur qui s'appelle Pierre Gabizon, qui a admirablement refait le château, qui a fait beaucoup de travail dans les vignes. J'ai goûté avec mon copain Henri Clemens, avec qui je goûte toujours. On a goûté 4 cuvées au moins sur les 140 au total. On goûte toujours tout à l'aveugle. Hein. Et on s'est aperçu qu'on avait goûté les 4 cuvées du château de Caraguille, qu'on les avait beaucoup aimées. Carton plein pour le château de Caraguille. Je ne connaissais pas cette propriété avant d'aller dans les Corbières il y a 15 jours. Ça m'a bluffé. C'est une propriété remarquable. Précipitez-vous au château de Caraguille, Corbières, les Gourgoules. La cuvée s'appelle les Gourgoules, les 2023. Gourgoules. 13 euros, 13,50 €. Donc c'est extrêmement raisonnable.
Ah bah, par rapport à l'émotion déclenchée.
Ouais, vraiment, c'est un grand rapport qualité-prix.
Merci beaucoup pour cette très belle découverte et bravo à Céline pour ses talents de dégustatrice. Dans un instant, on passe au dessert et on se fait nos cadeaux. Bah oui, le moment le plus croustillant de cette émission spéciale. Et en parlant de cadeaux, Djoubaka nous offre ça. Merci Zeno.
And the toughest, yeah, we've been through it. The struggles are not open, yeah, you're built for this. Just take your time. You're the greatest gift I found. My time with you is everything. All you do is make me proud. You've got a lot to unfold, but you never give it.
On the ocean, firefly in the midnight, you've been patiently discovering your essence, such a valuable presence. Yes, sir. Yeah. You've been flying high with wings of fire, and you've sacrificed for your desires. And those waterfalls were not in vain, and you're strong enough despite the pain. I'm excited that you've grown Manala. You feel inclined. If you need me, I'll be here in your head. And we've only just begun to clear the dust, yeah.
Greatest Gift de Georgia Smith.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
La bande dont on va déguster met la main à la pâte pour vous mitonner un réveillon aux petits oignons. C'est notre amie Céline Maguet qui a rejoint le plan de travail dont on va déguster, équipée de son micro-casque, pour nous dresser, un dessert.
Un dessert un peu surprise. En fait, j'avais envie de faire un hommage à la poire Belle-Hélène.
Oui.
Est-ce que une petite idée de qui a inventé la poire
Belle Hélène? Ah quand même, Auguste Escoffier.
Ah oui. Enfin, ouais. On peut pas vous coller en fait, c'est impossible.
Non, si, bien sûr.
Alors en fait, l'idée c'était de la poire Belle Hélène. Normalement, c'est une poire pochée avec un chocolat fondu. Je voulais justement là, c'est jouer le trompe-l'œil avec un caramel noir. Et avec justement à nouveau, je vais sortir le goût caché, celui qu'on n'a pas le droit de dire, l'umami. Ce côté umami du caramel d'olive noire.
Oh là là, un caramel d'olive noire.
Un caramel d'olive noire. En fait, cette recette, je l'ai empruntée, volée, à vous de choisir, à Jeremy Fox, un célèbre chef californien qui a signé le livre Légumes, que j'apprécie beaucoup. qui a beaucoup de condiments comme ça, qui accompagnent très bien les fruits ou les légumes. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette recette, qui d'ailleurs, ce caramel n'accompagne pas que le sucré, mais aussi le salé.
D'accord.
Ça marche aussi très bien salé.
Comment on s'y prend pour faire ce caramel d'olive noire ?
Alors, vous faites un caramel simple, quasiment à sec, donc du sucre avec une petite cuillère à soupe d'eau. Vous faites cuire votre caramel. Et quand il a commencé à ambrer, vous ajoutez soit une pâte d'olive noire, soit des olives noires que vous avez pris le temps de dénoyauter
et de concasser,
et ensuite de mixer. Et vous les ajoutez dedans. À vous de choisir au niveau de la proportion. Moi, je fais moitié-moitié. Moitié caramel, moitié olive noire. Mm-hmm. Parce que je veux vraiment avoir cette salinité, en fait, de l'olive. Et vous mixez à nouveau ensemble pour lier le tout.
Très
et
bien.
Après ça, vous pouvez en plus le conserver. Donc, ça va très bien avec cette poire pochée. Mais ça se conserve ensuite au frigo pendant un mois. Vous pouvez le mettre avec même des fromages de chèvre, par exemple.
Mm. Bonne idée.
Et ensuite, j'ai fait des poires pochées. Alors, ces poires, je les ai pochées dans un mélange de vin blanc, d'eau, un peu de sucre et de poivre. Alors, j'ai utilisé un poivre que j'adore, le poivre de Voatiperiferi.
Et oui, le poivre sauvage de Madagascar.
Exactement.
On trouve de plus en plus souvent, même en supermarché d'ailleurs. Ouais.
Mais après, vous pouvez utiliser les poivres que vous avez chez vous, même des poivres blancs, ça marche, juste utiliser des grains entiers.
Vous avez préalablement pelé vos petites poires, c'est quelle variété ?
J'ai pris un peu de Williams et un peu de Conférence. D'abord, vous posez le caramel d'olive noire et dessus, vous posez les petites poires pochées.
Et vous la posez toute droite à la verticale.
Droite à la verticale.
Combien de temps de pochage de vos poires dans le sirop ?
Alors, vous les pochez pendant 15 minutes. Mm-hmm. Et après, en fait, moi, pour vraiment qu'elles viennent s'imprégner du jus de pochage, je les fais infuser pendant une nuit. Si vraiment vous n'avez pas le temps, une heure, ça suffit. Hein.
D'accord.
Ça marche aussi. Et là, j'ai fait un petit truc en plus. Je ne sais pas, j'avais le temps, visiblement. Je me suis dit que j'avais le sirop et je n'avais pas envie de le gâcher. Donc, je l'ai fait réduire et j'ai fait revenir des graines de sarrasin dedans pour faire un insert à l'intérieur des poires.
En voilà une bonne idée.
C'est
parti. Écoutez, les assiettes de dessert vont passer avec nous pour déguster le dessert. Gaëtan.
Bonjour.
Comment ça va ?
Bah, ça va bien et vous ?
Ça va très bien. Alors, tu viens d'où ?
Je viens des Herblay dans le 95, du collège Jean Villard.
Est-ce que tu es gourmet ?
Oui.
Est-ce que tu es bec sucré ?
Oui.
Tu cuisines toi-même ou pas ?
Alors oui, je cuisine pour mes parents et moi-même. J'essaye, j'adore cuisiner.
Qu'est-ce que tu as fait dernièrement ?
C'est des tests, parce que ça ne réussit pas tout le temps. Mais j'essaye de faire des salades de fruits ou même j'ai essayé de faire du caramel.
Et ben voilà, tu vas goûter justement un caramel d'olive noire. A priori, ça te fait envie ou ça te rebute un peu ce caramel à base d'olive noire ?
La vue fait bizarre, mais à l'odeur, ça a l'air très bon.
Et ben tu sais quoi ? Tu vas t'armer de ta petite cuillère et tu vas nous goûter ça.
C'est très très bon ça.
Ah ouais. Alors Gaëtan ?
Si. Et ben, je trouve ça succulent. Je trouve que c'est vraiment délicieux et que l'olive, elle devient sucrée avec la poire.
Et oui !
Et ça s'accorde vraiment. Je ne pensais pas que ça s'accorderait comme ça. Et au final, c'est vraiment super bon.
Et puis la poire est encore un peu charnue. Vous aimez ou pas, Alessandra ?
Moi, j'adore la poire, déjà. Mais je trouve qu'avec ce caramel, c'est un peu surprenant. Puis ça va très bien, c'est très gourmand.
Quelle note, Gaëtan, tu mettrais sur 10 ?
Je pense un bon 8.
Waouh, un bon 8 pour Céline Maguet, qui, moment, cuisine beaucoup les fruits. Parce que vous aviez écrit un premier tome qu'on avait adoré chez First Edition sur les légumes. Et la suite logique de cette aventure éditoriale ?
C'est les fruits. Donc, La Bonne Cuisine des Légumes, qui est sortie il y a 2 ans à peu près. Et là, La Bonne Cuisine des Fruits, qui sortira en avril. Et après, je ne sais pas. Après, ça pourrait être La Bonne Cuisine des Pâtes, La Bonne Cuisine de... Je ne sais pas.
Mais pour l'instant, on va rester sur les fruits. Et vous reviendrez, évidemment, chère Céline, nous en parler à ce micro.
J'essaierai de faire des recettes aussi bonnes.
Au printemps prochain. Non, c'est un régal. Franchement,
un régal.
Moi, je serais même encore plus enthousiaste que Gaëtan.
Moi, je mettrais 10, ouais.
Et 8 sur 10, on est quand même...
C'est quand même une bonne moyenne.
On est quand
c'est
même
super,
sur une très bonne moyenne. Oui. Mais là, on est vraiment...
Moi, j'ai jamais eu ça quand j'étais à l'école. Hein.
Ah ouais, on est sur une recette remarquable. Tu serais capable d'essayer de la refaire à la maison ou pas, Gaëtan ?
J'ai bien envie d'essayer.
En tout cas, merci, parce que t'es un sacré dégustateur. Et, évidemment, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, là, c'est pas Jérôme Gagnès qui fait le sommelier, mais c'est Céline Maguet qui a décidé de faire la sommelière, la propre sommelière de sa recette, avec une boisson qu'on déguste à l'aveugle.
Je savais que j'allais poser une colle à Jérôme avec ce plat justement trop umami salé, donc je me suis collé en effet.
C'est un dessert qui est très compliqué à accorder. Pour le coup, j'avoue que c'est vraiment là, c'est un peu une colle. Après, il y a des essais à faire avec des vins, mais là.
Mais tu aurais trouvé, j'imagine.
J'aurais essayé de trouver. Je suis pas sûr de réussir, mais j'aurais essayé. Ouais.
À vous de goûter. Alors cette boisson mystère.
Alors d'abord le nez. J'adore le nez. Il y a une dimension végétale assez marquée que j'aime beaucoup. Qui me fait penser un peu à un thé rooibos. J'ai ce souvenir-là.
Il y a un côté un peu terreux, d'ailleurs.
Il y a un côté terreux incontestable. C'est pas de la gentiane, mais c'est racinaire.
Des plantes,
je trouve,
ça fait penser à une plante.
Oui, il y a une dimension végétale.
Il y a quelque chose d'infusion, ça fait penser aux Alpes.
Il y a un côté feuille, il y a un côté
Oui, Génépi aussi. Et... Alessandra a raison, il y a un côté Génépi un peu.
Il y a un côté, montagne, vraiment. Sobacha, je trouve.
Un bon point.
Il y a du sarrasin.
Oui, du sarrasin. En fait, il y a trois ingrédients et les trois sont présents dans le dessert.
Ah, un
noix et olives.
Non. En fait, là, vous avez une boisson sans alcool. L'idée aussi, c'est de montrer qu'on peut faire des accords sans alcool très chouettes et pas sucrés. Donc là, c'est une infusion pure, sans sucre ajouté. J'ai infusé le sarrasin que j'ai torréfié. J'ai infusé les peaux de poire pour ne pas gâcher, justement. Oui. Et j'ai aussi infusé un peu de poivre, le poivre que j'ai utilisé.
Intéressant.
D'ailleurs, c'est le poivre qui donne, en fait,
ce côté racinaire, justement.
Oui.
Boisson maison.
Souvent, dans les accords, on peut très bien aller piocher dans le plat les produits et ensuite en faire des infusions, justement.
Et comment est-ce que vous obtenez le côté légèrement perlant de la boisson?
Eh ben, c'est pas... très étonnant car ce n'est pas voulu. Peut-être l'infusion de peau de poire, en fait.
Qui est partie en fermentation.
Qui est partie en fermentation.
Il y a un côté très
léger. J'ai fait ça hier, donc ça fait... Il y a une nuit de...
Ouais, et tout ça à froid. C'est possible.
Tout ça à froid, pardon. Très important. En fait, les infusions, quand vous les faites à froid, vous allez chercher des goûts plus subtils, plus délicats. Après, si vous n'avez pas le temps, bien sûr, on ne vous en voudra pas de faire une infusion à chaud.
Infusion, sarrasin torréfié, peau de poire et poivre sauvage de Madagascar, signé Céline Maguet. Alors là, c'est un sans faute. Hein. Bravo Céline. C'est absolument délicieux. Et on remercie chaleureusement Gaëtan d'avoir prêté
ses... Il a parfaitement terminé son assiette, Gaëtan.
Ses belles compétences à notre émission. On va déguster pas de réveillon sans bûche, les amis, évidemment. Je vous ai apporté une bûche qui va vous laisser bûche bée, j'espère.
Oh, c'est drôle, patron. Ah oui.
À vous de goûter et de me dire ce que vous en pensez.
C'est frais, c'est acidulé.
Il y a encore des agrumes.
C'est agrumes.
Oui.
C'est le...
On est très agrumes.
Le thème de Noël. Encore.
Citron.
Très rafraîchissant. Avec
citron avec une herbe aromatique emblématique.
Estragon ? Non ?
Pas loin, mais alors on a des molécules communes.
Basilic.
Basilic.
Oui.
Bravo.
Ah oui, bien sûr. Oui.
Alors j'ai un peu triché, c'est pas moi qui l'ai faite, les amis. Hein. C'est une bûche qu'on a sélectionnée, figurez-vous, parmi les meilleures bûches, dans un banc d'essai organisé avec les goûteurs et les goûteuses de notre émission Très Très Bon sur Paris Première. Nous avons élu nos 5 meilleures bûches à moins de 55 euros. Et parmi elles, on a eu un gros coup de cœur pour la bûche proposée par Union. Vous savez, hein, cette boulangerie phénomène du 9e arrondissement de Paris, tenue par Maëva Manchon et Charles Yé. Nous les avons d'ailleurs invités à notre micro en mars dernier pour notre émission spéciale Cookies. Et cette bûche citron basilic est composée, tenez-vous bien, d'un biscuit et d'un crémeux au citron, d'un crumble, d'écorce de citron confit et d'une mousse de basilic. Vous aimez ?
Ah, c'est délicieux, c'est hyper équilibré, c'est frais, c'est digeste, c'est gourmand à la fois, c'est... Ça ressent faux, les textures sont géniales.
Parfaite pour une fin de repas.
Ah ouais.
Avec en plus un très joli jeu de textures. Alors écoutez bien, 4 personnes 26 euros, 6 personnes 39 euros. C'est l'une des bûches
de pâtissier
les moins chères à Paris.
Ah oui.
Compte tenu en plus du prix des matières premières, du prix des loyers à Paris, ça reste vraiment une très belle affaire. Voilà, la bûche Union.
Ah ouais.
Et notre ami Jérôme Gagnaise, on sait à quel point c'est un casse-tête d'accorder nos verres avec les desserts. Est-ce que vous avez une solution crédible à nous proposer ?
Oui, je crois que c'est crédible. En ce qui me concerne, je suis même sûr parce que je viens de vérifier et de goûter. Je crois beaucoup quand même aux accords desserts avec des vins avec un minimum de sucre quand même. Et donc, j'ai pensé à ce vin que je bois depuis longtemps, que je goûte depuis longtemps, que j'aime beaucoup. C'est Jurançon. C'est une appellation qui est située dans le Béarn. On a un nouveau Premier ministre béarnais. C'est un vignoble qui est aux portes de Pau, qui s'appelle Jurançon. Deux cépages emblématiques, le petit Mansin et le gros Mansin. Ici, c'est 80% de gros Mansin, 20% de petit Mansin. C'est le gros Mansin qui donne naissance au Jurançon moelleux. Ici, c'est le Jurançon du domaine Castera, Franck Liour, 2022. Ça vaut 16 euros et des brouettes, quelque chose comme ça, vous regarderez sur le site. J'aime beaucoup ce vin parce qu'on a à la fois la dimension exotique et très
un peu
exubérante du petit Mansin, et puis un équilibre entre une acidité tout à fait extraordinaire, qui est tranchante, qui est comme un laser, et en même temps une très jolie liqueur qui apporte la suavité et le gras qu'on aime dans ce type de vin.
Ah oui.
Ça s'appelle Jurançon 2022 du domaine Castera Franck Liour. J'adore.
Céline ?
Moi, je m'oppose vraiment au vin sucré en fin de repas.
Ah,
je trouve
une dispute,
ça...
enfin.
Enfin, vous n'attendiez que ça. Je trouve que ça tapisse trop la bouche. Ça vient vraiment alourdir.
Ça va finir en baston.
Mais à l'inverse, en effet, je trouve que Jurançon, c'est C'est une très très belle appellation et c'est une super idée d'en parler parce que c'est le futur. Et notamment les jurons sont secs.
Ouais,
et c'est plutôt ça que j'aurais aimé boire.
Le sucre d'un dessert décharne le vin. Et le vin paraît décharné, le vin paraît vite métallique. Il lui manque un peu de répondant au vin. Il faut qu'il ait un petit peu de sucre.
Donc enfin, c'est moi, sucre c'est sur sucre mon avis. Qu'il faut.
Est-ce que vous voulez un petit
j'en suis convaincu.
Est-ce que vous voulez un petit peu de sucre dans les oreilles?
Bien sûr.
All I want for Christmas is you.
Ouais.
Bravo.
Alors, l'interprète originale?
Ben c'est George Michael?
Non,
Maria Carey.
Bravo. Réinterprété par.
Original, ouais.
C'était. Bah, Chili Gonzalez. Chili, je sais pas comment.
Chili Gonzalez. Very Chili Christmas. Bravo.
Dont Jérôme a découvert.
C'est Jean-Michel à peu près qui est au micro.
Dont Jérôme
c'est Chili,
a découvert l'existence.
Comment.
On ne va pas se quitter, évidemment, sans avoir échangé nos cadeaux. Le Secret Santa, Noël secret, parlons français, s'il vous plaît. J'attends ce moment depuis le début de l'émission, c'est la distribution des cadeaux. Alors, chacun a préparé et emballé un petit cadeau gourmand de son choix. J'ai délégué à Laurane et Fabrice le soin de répartir les cadeaux. Vous avez chacun et chacune un paquet sous vos micros. Alors, attention, on va faire ça dans l'ordre, s'il vous plaît. On commence avec Céline qui va ouvrir son cadeau.
La cuisine des contrées imaginaires, un livre de Alberto Manguel.
Tu l'as pas ?
Donc c'est Elvira qui a offert ça.
C'est un livre pour lequel j'ai vraiment eu un petit coup de cœur. Alberto Manguel, c'est un grand auteur argentin établi au Canada. Et il a une passion pour la littérature classique et il a imaginé un livre de recettes, des vraies recettes qui fonctionnent vraiment et qui sont super, avec des croquis qu'il a réalisés lui-même et qui sont assez ravissants.
Formidable.
Et ces recettes sont inspirées des livres qui ont fondé son goût pour la littérature. Il y a ainsi le porc rôti à la Circé inspiré par l'Odyssée d'Homère, le cocktail au sang frais inspiré par Dracula de Bram Stoker.
Formidable.
Et moi j'ai un petit faible pour les crevettes Nautilus du capitaine Nemo, recette inspirée par l'île mystérieuse de Jules Verne, des crevettes avec tomates et piments à cuisiner avant ou après, selon moi, avoir revu ou vu 20 milieux sous les mers, le génial film de Richard Fleischer avec Kirk Douglas et James Mason.
Bon, on va se mater ça pendant les fêtes.
C'est mon ordonnance pour les vacances de Noël.
Parfait, ça vous inspire ou pas, Céline?
Bah, en plus, ça me touche beaucoup parce que la première page que j'ouvre, c'est Le Temps Perdu, et c'est d'après Gabriel Garcia Marquez, et c'est un de mes livres préférés, La Mère du Temps Perdu.
Vous nous rappelez le titre du livre que Elvira vous a offert, Céline?
La Cuisine des Contrées Imaginaires, d'Alberto Manguel, aux éditions Actes Sud.
Cadeau suivant, c'est à Elvira d'ouvrir son cadeau.
J'ai quand même le plus joli paquet cadeau.
Incroyable.
Franchement, c'est tellement soigné, ça peut pas venir de Jérôme, ça, à mon avis. Si je procède par élimination, c'est l'une de mes deux camarades. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça, alors?
Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Un morceau de métal.
Ah, c'est pour la tête de moine, non?
Attention, ne pas déchirer, surtout pas déchirer l'emballage.
Mais c'est génial.
Un moule
à panisse. J'adore les panisses.
Alors, oui, attendez, là vous avez un cylindre en métal,
oui,
avec une espèce de tige soudée sur un plot.
Tout à fait, c'est un poussoir à panisse. C'est le moule à panisse qui vient de la maison Empereur à Marseille.
Je vois.
Quartier Noailles.
Quartier Noailles, qu'on y va pour tous les ustensiles de cuisine, pour l'ambiance, enfin pour tout. Mais cet ustensile, je l'ai depuis des années. Je m'en sers. Pour la panisse, bien sûr, qui est cette spécialité marseillaise de l'Estac, une pâte où on mélange de l'eau, de l'huile d'olive, du sel et de la farine de pois chiche. On la met dans le cylindre, on le laisse à la verticale, on le laisse refroidir. Donc la panisse prend donc une forme
de boudin.
On peut ensuite bien la découper facilement et après la faire frire.
Mais ça tombe tellement à pic, j'adore les panisses, j'en fais souvent à la maison, j'avais rien pour les découper, je faisais des découpages vraiment horribles.
Parce que là, on obtient des palais.
Des palais ronds, on peut faire aussi de la polenta avec ça, ou alors des gnocchis à la romaine.
Par ailleurs, l'emballage du cadeau comprend la recette des panisses.
Des panisses de l'Estac.
Super belle idée.
Merci,
on a le droit d'échanger
avec
les cadeaux parfois. Moi,
je le garde. Non, je change avec personne.
Ça te va très bien, Elvira.
Bravo.
Alessandra, à vous d'ouvrir votre cadeau.
Ah, j'y vais. Moi, j'ai un joli paquet bleu. On dirait un livre. Maintenant, c'est un livre de Aurélie Soubiran.
Exactement.
Ah, ça, c'est Jérôme.
Oui.
J'adore Aurélie.
Ah, elle est formidable, Aurélie.
Elle est formidable. Oui, c'est un livre des éditions de l'Épure.
Exactement.
En plus, la maison d'édition que j'affectionne particulièrement.
Et oui, et vous avez signé quelques bouquins quand même, peut le dire. La vie est bien faite.
C'est le premier livre d'Aurélie qui s'est plongé dans l'histoire de la famille Plajol. Ça s'appelle « Les terroiristes » ou « Une histoire du clan du Trescantou ». C'est le nom de l'endroit où se trouve le domaine Plajol, à Gaillac. C'est une famille que nous aimons beaucoup, ce sont des vins que nous aimons beaucoup, et c'est une très très belle histoire de transmission, et surtout une histoire aussi de gens qui ont défriché, qui ont redéfriché, qui ont redécouvert des vieux cépages, qui ont fait tout un travail extraordinaire qui va bien au-delà des frontières de leur propre appellation. Si on aime le vin, on adorera ce livre, ça s'appelle Les Terroiristes.
Voilà, vous nous rappelez le nom de l'autrice.
L'autrice, c'est Aurélie Soubiran.
Et un grand salut à la famille Plajol à Gaillac, qu'on aime beaucoup.
Très fort.
À vous, François-Régis.
Ah, j'ai l'impression que...
Il n'y a pas trop de mystère sur la forme du cadeau. C'est une bouteille, a priori.
Alors là, on a quand même affaire à une bouteille avec une capsule, une étiquette orange mécanique...
Donc vous devinez un peu à la couleur que c'est pas Jérôme qui vous a offert ce vin. Il a l'air, il regarde en se disant c'est quoi ce vin nature ? Ce n'est pas du vin nature. J'ai découvert Aline Paulus qui est située dans le Pays Basque. C'est une infusion de plantes aromatiques, de plantes sauvages qui viennent de la Drôme et près d'Aubagne. Et elle fait infuser ça dans un jus de raisin avec du verjus. Parce que justement le jus de raisin souvent ça vient sucré et le verjus c'est ce qui donne le petit kick d'acidité qui vient équilibrer le tout et pas du tout lasser le palais. Et ça s'appelle Oma Frida, cuvée numéro 2.
Magnifique, mais alors je suis très curieux de déguster ça, j'imagine que je la fais rafraîchir un peu.
Rafraîchir, et c'est pétillant. Donc la fête sera folle.
Et vous savez quoi ? Je la boirai à votre santé pendant les fêtes, chère Céline. Jérôme Gagnez, à vous de
voir
votre cadeau.
Je me demande si c'est un hasard, parce que c'était le plus gros cadeau. C'est peut-être pour le plus gros de la bande. C'est marqué « Suce-moi », en gros.
Cher Jérôme, derrière ce titre gentiment coquin, un poil provoque, il faut bien le dire,
c'est vrai.
Se cache une merveilleuse encyclopédie pop, joyeuse, des bonbons, bonbec, confiserie et autres sucreries, du caramel d'Isigny à la bergamote de Nancy, des cocos boers aux bêtises de Cambrai en passant par la fraise Tagada, le rouleau de réglisse, les soucoupes volantes, FEG, le sigle de Frédéric Ernestine Grasser Hermé, et bien cette autrice qui est une agitatrice depuis des décennies dans le milieu de la gastronomie, opère un tour de France très fouillé des bonbons dans un livre qui est vraiment un bel objet, couverture violette, graphisme aussi acidulé qu'un bonbon anglais, composition photographique très arty, voilà, ce livre est une pure réussite aux éditions JBE Books. Est-ce que vous voulez savoir quel est le bonbon préféré de Feg ?
Oui,
évidemment.
Oui, oui.
Eh bien écoutez, je lui ai tendu le micro.
Ah.
En fait, je vais te le mettre dans la bouche parce que sucier n'est pas couché. Que du bonheur, du plaisir, à lécher, à croquer, à mâcher. Toi, tu vas fermer les yeux. Je vais tenir la queue. Fais attention. Vas-y, mord. Attention, il y a un noyau. Non, mais ce bonbon, au bout de trois, t'es bourré. C'est une griotte bisontine à longue queue. Merci de m'avoir invité. Je love you.
La griotte bisontine à longue queue. Et vous l'avez sous vos micros, allez, dégustez, sucez, faites comme vous voulez.
J'adore, c'est un de mes bonbons préférés.
C'est vrai ?
À la fois, il y a l'eau de vie, le gras et le sucre du chocolat, qui contrebalance l'eau de vie, et le moelleux de la chair de la cerise.
Vous aimez ou pas ?
J'adore.
Moi, ça me rappelle quand c'était vraiment les derniers chocolats qui restaient dans la boîte avec l'eau de vie de cerise.
Ça, c'est un compliment, oui, d'accord. Eh bien, écoutez, c'est une confiserie fabriquée à Besançon depuis 1923, plus de 100 ans, par la maison Beau. Ce bonbon est ainsi décrit dans le livre de Feg. Une coque en chocolat Arriba Bitter, origine Équateur, surmontée d'une queue. Et cette coque enrobe une cerise entière pesant entre 15 et 20 grammes, dont l'intérieur est inondé de kirsch de Fougerolles. Mmh. Voilà. Peut-être bien l'ancêtre artisanal d'un certain mon chéri, non ?
C'est vrai, c'est ça.
Bon. En Italie, ça s'appelle le Boero.
Et c'est sur cette cerise sur le gâteau que l'on se quitte. Chers chroniqueurs, chères chroniqueuses, chers auditeurs, chères auditrices, je lève mon verre pour vous souhaiter, à deux jours du réveillon, un savoureux Noël et de joyeuses fêtes.
Joyeux Noël à tous et toutes. Bonne fête.
Bonne fête à tous.
Allez, on trinque. La semaine prochaine, c'est d'autres chroniqueurs et chroniqueuses dont on va déguster qui prennent le relais pour dresser avec moi le bilan gourmand de l'année qui s'achève. Bonnes adresses, recettes, lectures, cuvées à boire.
on vous sert sur un plateau le meilleur de 2025. Et on se retrouve, Jérôme, Alessandra, Céline et Elvira, en 2025. Au micro, on va déguster.
À l'année prochaine.
À dimanche prochain, si vous avez encore faim.